Alors, on est le 24 décembre, c'est la période du partage par excellence, hein?
Ah oui, complètement.
Mais sur les réseaux sociaux, là, au milieu des photos de famille, des vœux, on partage bien plus que la bûche au chocolat.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On partage des articles, des blagues, des alertes. Et souvent, en fait, la question de savoir si c'est vrai, elle nous traverse même pas l'esprit.
Et c'est justement là que ça devient fascinant. C'est la question qu'on explore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on clique si facilement sur partager, même quand on a une petite voix qui nous dit ce truc est un peu louche.
D'accord. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source.
Oui, on va plonger dans cette mécanique en s'appuyant sur un article vraiment très éclairant de Julien Lecomte qui est publié sur le site Philosophie, Médias et Société. L'article s'appelle Fake News, pourquoi partageons-nous des contenus faux?
Donc notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de faire la leçon, hein, pas de distribuer les bons ou les mauvais points.
Non, surtout pas.
C'est vraiment de comprendre, de décortiquer un peu les ressorts psychologiques, sociaux, émotionnels, qui font de nous, parfois, les agents de la désinformation sans même le vouloir.
C'est ça, on va voir que la vérité, finalement, elle est souvent la dernière de nos préoccupations.
Alors, par où on commence?
Eh bien, pour bien commencer, je pense qu'il faut poser une base saine. L'auteur, Lecomte, il insiste vraiment sur une distinction qui est capitale.
Laquelle?
Il y a un monde, en fait, entre une erreur journalistique qui est commise de bonne foi par un média qui se trompe et qui va corriger,
D'accord.
et un site de pure propagande qui, lui, fabrique un mensonge de A à Z.
D'accord.
Et le but, c'est de nuire ou de manipuler.
Ah oui, la nuance est essentielle. Dans un cas, on a de la négligence, et dans l'autre, on a une intention qui est clairement malveillante.
Exactement.
C'est une maladresse contre une arme, en quelque sorte.
C'est une très bonne image. Et cette distinction, elle change tout dans notre manière de réagir et puis d'analyser ce qui circule. Une erreur, ça appelle une correction. Une manipulation, ça appelle une analyse critique des intentions. Et ça nous amène directement au cœur du sujet.
C'est-à-dire.
C'est que dans l'écosystème des réseaux sociaux, la fiabilité de l'info, ce n'est qu'un critère parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Et souvent, ce n'est même pas le plus important.
Alors, si ce n'est pas l'amour de la vérité qui nous guide, qu'est-ce qui nous motive? La première raison que l'article identifie, elle est assez innocente finalement.
Oui, c'est le pur divertissement.
Voilà. C'est le partage en mode c'est peut-être faux, mais c'est drôle.
On en a tous vu passer, hein, ces publications.
Ah oui.
Qui affirme, avec une pseudo-étude à l'appui, que, je cite, les gens dont le prénom commence par J sont scientifiquement plus beaux.
Ou que l'intelligence des femmes est statistiquement liée au fait d'aimer les mojitos.
Ah, mais voilà.
Ça explique beaucoup de choses. Non mais plus sérieusement, personne n'y croit une seule seconde. On sait que c'est faux.
Mais oui.
Et c'est justement ça qui est drôle. Le pacte est clair. On est là pour la blague.
Exactement. La fausseté est évidente. Elle est acceptée. Le partage ici, il a une fonction qui est purement sociale et émotionnelle.
Créer du lien.
C'est ça, susciter un sourire, créer une interaction légère, un petit moment de connivence. La valeur du contenu, elle se mesure pas du tout à sa vérité, mais à sa capacité à créer une émotion positive.
On est dans le lien social, pas dans l'info. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme où l'émotion prend le pas sur le fait, on va le retrouver ailleurs.
Oui.
Dans une autre catégorie de partage qui, elle, est beaucoup moins anodine. C'est celle du « c'est peut-être faux, mais mieux vaut prévenir ».
Oui, et là on change complètement de registre émotionnel. On passe du plaisir à la peur. L'article cite des exemples qui sont des classiques, des vrais marronniers de la rumeur. Les alertes sur les camionnettes blanches qui rôderaient près des écoles.
Pour enlever des enfants, oui, on a tous vu ça. Ou alors les conseils de santé un peu extrêmes.
Comme cette histoire qui revient tout le temps de se mettre de l'ail dans le vagin pour soigner une mycose.
Ce qui est, on le rappelle, une très très mauvaise idée.
Une très mauvaise idée, bien sûr. Mais face à un sujet aussi anxiogène que la sécurité de ses enfants ou sa propre santé, notre cerveau y fait une sorte d'analyse coût-bénéfice qui est complètement biaisée.
Comment ça?
Le raisonnement implicite, c'est « et si c'était vrai ?»
Et là, dans cette balance, j'imagine que le risque de se tromper, de partager une fausse alerte, pèse beaucoup moins lourd que le risque de ne rien dire et qu'un drame arrive.
C'est tout à fait ça.
La culpabilité potentielle, elle doit être insupportable.
Absolument, vous mettez le doigt sur une vulnérabilité psychologique qui est fondamentale. Le coût social d'avoir l'air un peu crédule, il est minuscule comparé au coût émotionnel d'une inaction qu'on imagine dangereuse.
Le cerveau rationnel, et court-circuité.
Il est complètement court-circuité. On n'évalue plus une information, on gère une angoisse. C'est le mécanisme qu'on retrouve derrière quasiment toutes les chaînes d'alerte ou les paniques sanitaires virales.
Et cette mécanique de la peur, de la gestion de la menace, elle ne s'applique pas qu'aux dangers physiques, j'imagine. Ça doit aussi s'appliquer aux menaces qui pèsent sur nos idées, sur notre vision du monde.
Vous avez mis le doigt sur ce qui est sans doute le moteur le plus puissant de la désinformation. Là, on entre dans la troisième catégorie.
Laquelle ?
Celle du « c'est peut-être faux, mais ça sert ma cause ». C'est le moment où l'idéologie prend le contrôle total.
D'accord.
L'article donne l'exemple de sites dédiés de réinformation qui vont relayer la moindre bribe d'infos, qu'elle soit vraie, déformée ou carrément fausse, du moment qu'elle dépeint l'immigration comme un danger.
Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de la confirmation.
C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et pour expliquer ce phénomène, l'article s'appuie sur une analyse qui est passionnante d'un chercheur, Michael Bank-Peterson.
Et que dit-il ?
Il explique que lorsqu'on se sent en mode conflit, notre cerveau change littéralement de logiciel.
Ah oui !
Le cortex préfrontal, donc la partie de notre cerveau qui est responsable de l'analyse critique, de la nuance, il est mis en sourdine. Et c'est l'amygdale, notre détecteur de menaces et le centre des émotions tribales, qui prend les commandes.
C'est puissant comme idée, ça. Ça veut dire que le but, ce n'est plus du tout de comprendre le monde réel.
Non.
Mais c'est de gagner une bataille. L'information n'est plus une donnée à analyser. C'est une pierre à jeter sur l'adversaire.
Ou un bouclier pour protéger son camp, précisément. La question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» mais « est-ce que c'est utile pour mon camp ?» Peterson le formule très bien. Il dit que le vrai problème, ce n'est pas tant le partage de fausses nouvelles, mais le partage biaisé de nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses.
Un partage orienté.
Voilà. Et l'auteur de l'article met en avant une phrase qui résume toute cette logique. Si ceci est vrai, alors nous avons raison de penser ce que nous pensons.
C'est si conditionnel au début. Il est terrible. Il dit tout.
Oui.
Il suspend le besoin de la preuve. Ce qui compte, c'est le « alors » qui suit. C'est la justification de sa propre vision du monde.
C'est le cœur du réacteur. Ce n'est plus l'information qui forge l'opinion. C'est l'opinion qui va sélectionner, filtrer et valider l'information qui l'arrange.
On ne cherche plus à s'informer, mais à se conforter. À armer sa rhétorique pour la prochaine dispute en ligne.
Ou au prochain repas de famille.
Exactement. Et ça nous amène à une dernière dimension qui est très liée, mais peut-être plus personnelle.
L'identité.
Oui, celle de l'identité. Partager, ce n'est pas seulement défendre une idée, c'est aussi dire au monde qui on est.
Tout à fait. Le partage est un acte social de positionnement. L'auteur prend un exemple qui parle à beaucoup de monde, les débats sur l'éducation.
Ah oui ?
C'est un sujet vendeur, dit-il, parce que tout le monde a une expérience, un avis. Partager un article sur la dernière réforme scolaire ou les dangers des écrans, c'est une manière de s'insérer dans une grande conversation.
Et de dire « voilà, je suis le genre de personne qui se préoccupe de ça ».
C'est ça. Et ça peut aller beaucoup plus loin. L'article analyse cette posture très répandue aujourd'hui.
Laquelle ?
Celle du « on ne me la fait pas, moi, je ne suis pas un mouton, je sais que les médias mentent ».
Ah, le fameux anti-système.
Oui. Et l'analyse est très fine. Souvent, cette phrase exprime moins une réelle compétence en vérification des sources qu'un positionnement social.
C'est une construction d'identité.
Oui, une identité de personne lucide, éclairée, qui a compris les vrais enjeux cachés au commun des mortels.
Avec une ironie qui est assez mordante, c'est que cette posture de méfiance absolue envers les médias traditionnels peut rendre incroyablement crédule envers n'importe quelle source alternative.
C'est le grand paradoxe. C'est l'oncle au repas de Noël qui vous explique très doctement que les journalistes sont tous vendus, tout en vous citant comme preuve irréfutable un obscur blog hébergé en Russie et écrit en police Comic Sans.
On l'a tous connu. Mais au fond, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est plus qu'argumenter. Il plante un drapeau.
Exactement. Le partage devient un acte de construction identitaire. En partageant ce type de contenu, il signale son appartenance à un groupe.
Les sceptiques, les éveillés, les insoumis.
Et sa défiance envers un autre, c'est comme porter le maillot de son équipe de foot. La véracité de l'info partagée est encore une fois complètement secondaire par rapport à la fonction sociale et identitaire de l'acte de partage.
Quand on met tout ça bout à bout, le tableau est assez vertigineux quand même. On est parti de la petite blague sur les mojitos et on arrive à des mécanismes profonds de gestion de la peur, de guerre idéologique.
Et de construction d'identité.
Voilà. Finalement, partager une fausse information, c'est un acte profondément, et parfois tristement, humain.
La conclusion de l'article est très éclairante là-dessus. La véracité d'un contenu, ce n'est que très, très rarement le critère premier qui nous pousse à cliquer.
D'accord.
Et l'auteur va même plus loin avec une nuance qui est, je trouve, essentielle. On peut tout à fait partager un contenu qui est factuellement vrai, mais pour de mauvaises raisons.
C'est-à-dire ?
Par exemple, partager une info tout à fait exacte sur un adversaire politique, non pas dans le but d'éclairer le débat public, mais uniquement dans celui de lui nuire, de le salir.
Je vois.
Dans ce cas, l'information est vraie, mais l'intention derrière le partage, elle, relève de la manipulation ou de l'attaque.
L'intention, ce n'est pas d'informer, c'est de conforter son camp et d'affaiblir l'autre.
On revient à ce fameux mode conflit.
On y est en plein. Donc, la question, ce n'est pas seulement une opposition binaire entre vrai et faux. C'est bien plus complexe.
Beaucoup plus. Comprendre la propagation des fausses informations, ce n'est pas seulement un enjeu de fact-checking. C'est avant tout un exercice d'introspection.
Se regarder soi-même.
Oui, s'interroger sur nos propres motivations, nos angoisses, nos biais cognitifs, et puis nos immenses besoins d'appartenance sociale.
Et c'est peut-être ça la pensée finale sur laquelle on peut rester. L'article nous invite à une forme d'auto-analyse sans jugement. La prochaine fois que notre doigt s'approche du bouton partager, que ce soit pour une alerte, un article qui nous indigne ou une simple blague, on pourrait juste prendre une seconde.
Une petite pause.
Une seconde pour se demander... Au fond, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire? Est-ce que mon but, c'est d'informer, de divertir, de rassurer ma propre angoisse, de consolider mes convictions ou simplement d'affirmer au monde à quelle tribu j'appartiens?
Ce n'est pas une question simple, hein?
Non, mais elle est peut-être plus importante que jamais.